Donc, bon, on est très, très, très heureux d'accueillir, donc, comme je l'ai dit, Véronique Lefebvre-Desnouettes et Mathieu Simonet. Donc, Véronique est pédopsychiatre de formation, psychiatre adulte en gériatrie spécialisée donc, du sujet âgé à la PHP, à l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Elle est docteure en philosophie pratique et éthique médicale à l'université Gustave Eiffel. Nous sommes étudiants de la même école, donc on se connaît depuis très longtemps avec Véronique et Alain de Brocard, mais voilà, il y a quelques infiltrés dans cette salle. Et sa thèse dirigée donc par le professeur Éric Fiat porte sur le sentiment d'exister des malades d'Alzheimer. Esprit, es-tu là? Donc plein d'interrogations, oui. Donc, elle a encadré les jeunes médecins externes de 2010 à 2019 à Paris-Sorbonne avec François Goupy et l'université Paris-Est-Créteil avec le philosophe Roberto Poma du Nice,
laboratoire interdisciplinaire pour la science sociale
et la littérature. Merci beaucoup. Dans des ateliers d'écriture narrative et participe à la promotion et l'enseignement de la médecine narrative. Nous, c'est tout nouveau sur le CHU de l'Université de Bordeaux. Mais elle vous en parlera, donc Isabelle Galichon qui a monté ce DU de médecine narrative. Véronique est dans cette mouvance depuis beaucoup plus longtemps. Au début, où c'est arrivé des États-Unis, ça c'était Rita Charron. Avec Rita Charron, bien sûr. Voilà. Elle participe à la promotion d'enseignement de la médecine narrative. Elle a écrit donc. Est très prolixe, on va dire, d'écriture. Il y a pas mal de personnes qui écrivent dans cette salle, on en apprend. Donc, le premier, du consentement dans la maladie d'Alzheimer, donné pour penser l'institutionnalisation. Donc, c'est Connaissance et Savoir, 2017. Vieillir n'est pas un crime, Monaco, édition du Rocher, 2021. Mon ressort ordonnance, ou être accompagné jusqu'au bout, Monaco, édition du Rocher. Et celle de ta thèse, c'est laquelle vous avez intervenu?
C'est absolument l'éthique des petites perceptions.
Mais oui, c'est ça.
Chez RS, et il y a la force de la caresse avant, il y a que faire face à Alzheimer.
Voilà, vous avez vu.
J'ai dirigé de nombreux ouvrages, dont un qui s'appelle Soigner les soignants, où je parle effectivement de la médecine narrative aussi dedans, qui est un des angles pour soigner les soignants aussi.
Grand merci, Véronique. Et pour Mathieu Simonet, qui a aussi fait beaucoup de choses, je n'en dirai que la moitié, puisque l'autre moitié sera présentée pour notre table ronde. Donc je dis quand même si c'est barré, que tu es écrivain et que tu es ancien avocat, que ça, Il est, bon, en tout cas, moi j'étais censée dire seulement qu'il est doctorant à l'université Serge-Yves Pontoise. Il travaille sur les autobiographies collectives. Il porte ce projet sur les récits de la fin de vie avec, bien sûr, notre collègue dont on était très content de pouvoir, qu'on était très content d'accueillir, donc Michel Lévy-Soussan, donc, qui est médecin responsable du service de soins palliatifs de la Pitié-Salpêtrière et qui travaille avec Isabelle depuis longtemps, et Véronique et Mathieu, bien sûr, puisqu'ils sont aussi... porte un gros projet de recherche sur le récit en fin de vie que la plateforme nationale de la fin de vie soutient financièrement. Voilà. Je suis très heureuse. Donc, ça sera une petite table ronde à deux. Alors, je me permettrai de temps en temps, si ça me fait donner des idées. Donc, honneur aux femmes, tu es d'accord?
Grand plaisir.
Alors bonjour, merci à toutes et tous d'être si nombreux dans cette belle salle, dans cette belle journée, malgré la pluie, mais enfin il paraît que vous l'attendiez. Alors, je suis psychiatre de la personne âgée maintenant, après avoir été pédopsychiatre. J'ai vieilli avec mes patients et je suis la seule psychiatre pour les milliers de gériatries de mon grand gériatlon de l'assistance publique hôpitaux de Paris, qui est en banlieue parisienne à Limeil-Bréval, dans le Val-de-Marne. Donc je fais de la psychiatrie de liaison et j'ai créé la première consultation mémoire de l'assistance publique en 1988, à laquelle j'avais adossé des ateliers mémoire pour les aidants. On s'occupait d'eux en même temps et on prenait en charge dans des ateliers qu'on appelle aujourd'hui de stimulation cognitive des malades, très atteint dans ma maladie d'Alzheimer, mais en ambulatoire. Alors je vais vous parler, et je vais être le porte-voix de mes malades qui sont ce qu'on appelle dans un soin de longue durée. Alors ils ne sont pas en EHPAD, parce que les EHPAD coûtent très cher à Paris et en banlieue parisienne, ça va de 3 600 € jusqu'à 8 000 € au pied du Champ de Mars, dans les groupes privés lucratifs. Je ne reviendrai pas là-dessus, mais là aussi c'est une mort sociétale. Et ils sont polypathologiques. Ils ont 6 pathologies en plus de leur démence. Ils sont très dépendants, ils ne parlent plus la plupart du temps. Et bien pour autant, il y a une présence à l'autre. Donc je vais être leur porte-voix. Et ça commence par cette interrogation. Est-ce que je suis déjà mort ? Me dit ce patient fébrile et égaré dans cette vie délitée que la maladie d'Alzheimer a sapée inlassablement depuis des années. Suspendu entre finitude, abandon, rejet, acceptation et accompagnement. Jusqu'au bout, il viendra dire son appartenance au monde des vivants par cette interrogation si pertinente. Est-ce que je suis déjà mort ? À moi, me dit un autre, j'ai peur. J'ai peur de la nuit pour toujours. Donnez-moi la main, elle est chaude. Oui. De la chaleur dans ma main pour partir dans le froid de la nuit. Ce long mourir renvoie au chronos, au temps qui dure. C'est long par rapport à quoi ? À l'entrée en institution, au début de la maladie, à l'âge ? Une patiente de 102 ans me dit dans un soupir : mais c'est trop long de mourir, surtout si Dieu vous oublie. Ce long mourir de ces patients nous interpelle dans ce deuil blanc que certaines familles font dans l'absence et l'évitement. Parce que ça n'a plus de sens. Vous comprenez ? Il ne me reconnaît même pas. Alors moi, je n'ai pas de temps à perdre. Car il nous renvoie à notre propre mort, qui n'est plus apprivoisée dans nos cultures portant haut les valeurs de jeunesse et d'autonomie. Pour qu'une parole puisse se dire, pour qu'un regard puisse se saisir, pour qu'une main puisse se caresser, il faut du temps. Et c'est bien que le temps institutionnel soit long. Il faut de l'humain dans le soin, du care et non du cure, du confort et de l'amour au sens d'agapé. C'est-à-dire celui qui donne sans attendre de retour. Il faut aussi donner ce temps aux familles qui le souhaitent. Laisser la place à l'inventivité, que la pesanteur institutionnelle s'humanise, pour laisser se vivre quelques moments de grâce. Camille, 85 ans, souffre de maladie d'Alzheimer depuis 15 ans. Elle est en phase terminale de sa maladie. Le silence et l'apathie, le regard vide et le visage émacié ont pris la place de la tyrannie des troubles du comportement, de ses cris, de ses crachats, de ses griffures. Elle est alitée depuis des semaines dans un temps long, dilatée vers une...
Donc, on est très heureux d'accueillir, comme je l'ai dit, Véronique Lefebvre-Desnouettes et Mathieu Simonet. Donc, Véronique est pédopsychiatre de formation, psychiatre adulte en gériatrie spécialisée du sujet âgé à la PHP, à l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Elle est docteure en philosophie pratique et éthique médicale à l'université Gustave Eiffel. Nous sommes étudiants de la même école, donc on se connaît depuis très longtemps avec Véronique. Et Alain de Brocard, mais voilà, il y a quelques infiltrés dans cette salle. Et sa thèse dirigée donc par le professeur Éric Fiat porte sur le sentiment d'exister des malades d'Alzheimer. Esprit, es-tu là ? Donc, pas d'interrogation, oui. Donc, elle a encadré les jeunes médecins externes de 2010 à 2019 à Paris-Sorbonne avec François Boupy et l'université Paris-Est Créteil. Avec le philosophe Roberto Poma du Nice, oui.
Laboratoire interdisciplinaire pour la science sociale.
Dans les natures. Merci beaucoup. Dans des ateliers d'écriture narrative et participe à la promotion et l'enseignement de la médecine narrative. Nous, c'est tout nouveau sur le CHU de l'Université de Bordeaux, mais elle vous en parlera. Donc, Isabelle Galichon qui a monté ce DU de médecine narrative. Véronique. donc être dans cette mouvance depuis beaucoup plus longtemps, au début où c'est arrivé, les États-Unis, ça c'est arrivé.
C'était Charon.
Avec Rita Charon, bien sûr.
Ah oui.
Voilà. Elle participe à la promotion d'enseignement de la médecine narrative. Elle a écrit, donc, elle est très prolixe en matière d'écriture. Hein. On a pas mal de personnes qui écrivent dans cette salle, on en apprend. Donc, le premier, du consentement dans la maladie d'Alzheimer, donné pour penser l'institutionnalisation. Donc, c'est Connaissance et savoir, 2017. Vieillir n'est pas un crime, Monaco, édition du Rocher, 2021. Bon de son ordonnance, ou être accompagné jusqu'au bout, Monaco, édition du Rocher. Et celle de ta thèse, c'est laquelle vous avez à venir?
C'est absolument l'éthique des petites perceptions.
Mais oui, c'est ça.
Chez RS, et il y a la force de la caresse avant, il y a que faire face à Alzheimer.
Voilà, vous avez vu.
J'ai dirigé de nombreux ouvrages, dont un qui s'appelle « Soigner les soignants ». Je parle effectivement de la médecine narrative aussi dedans, qui est un des angles pour soigner les soignants aussi.
Un grand merci Véronique. Et pour Mathieu Simonet, qui a aussi fait beaucoup de choses, je n'en dirai que la moitié, puisque l'autre moitié sera présentée pendant ton table ronde. Donc je dis quand même si c'est barré, que tu es écrivain et que tu es ancien avocat, que ça,
que ça.
Il est, bon, en tout cas, moi j'étais censée dire seulement qu'il est doctorant à l'université Serge-Yves Pontoise. Il travaille sur les autobiographies collectives. Il porte ce projet sur les récits de la fin de vie avec, bien sûr, notre collègue dont on était très content de pouvoir, donc on était très content d'accueillir, donc Michel Lévy-Soussan, donc qui est médecin responsable du service de soins palliatifs de la Pitié-Salpêtrière et qui travaille avec Isabelle depuis longtemps, et Véronique et Mathieu, bien sûr, puisqu'ils sont aussi, portent un gros projet de recherche sur le récit en fin de vie, que la plateforme nationale de la fin de vie soutient financièrement. Je suis très heureuse. Donc, ça sera une petite table ronde à deux. Alors, je me permettrai de temps en temps, si ça me fait donner des idées. Donc, honneur aux femmes, tu es d'accord?
Au plaisir.
Alors, bonjour. Merci à toutes et tous d'être si nombreux dans cette belle salle.
Et de qualité.
Dans cette belle journée, malgré la pluie. Mais enfin, il paraît que vous l'attendiez. Alors, je suis psychiatre de la personne âgée maintenant, après avoir été pédopsychiatre. Hein. J'ai vieilli avec mes patients. Et je suis la seule psychiatre pour les milliers de gériatries de mon grand gériatlan de l'assistance publique au Hôpital de Paris, qui est en banlieue parisienne à Limeil-Bréval, dans le Val-de-Marne. Donc je fais de la psychiatrie de liaison. Et j'ai créé la première consultation mémoire de l'assistance publique en 1988, à laquelle j'avais adossé des ateliers mémoire pour les aidants. On s'occupait d'eux en même temps et on prenait en charge dans des ateliers qu'on appelle aujourd'hui de stimulation cognitive des malades très atteints dans leur maladie d'Alzheimer, mais en ambulatoire. Alors je vais vous parler et je vais être le porte-voix de mes malades qui sont ce qu'on appelle dans un soin de longue durée. Là, ils ne sont pas en EHPAD parce que les EHPAD coûtent très cher à Paris et en banlieue parisienne. Ça va de 3 600 € jusqu'à 8 000 € au pied du Champ de Mars, dans les groupes privés lucratifs. Je ne reviendrai pas là-dessus, mais là aussi c'est une mort sociétale. Et ils sont polypathologiques. Ils ont 6 pathologies en plus de leur démence. Ils sont très dépendants, ils ne parlent plus la plupart du temps. Et bien pour autant, il y a une présence à l'autre. Donc je vais être leur porte-voix. Et ça commence par cette interrogation. Est-ce que je suis déjà mort? Me dit ce patient fébrile et égaré dans cette vie d'élité que la maladie d'Alzheimer a sapée inlassablement depuis des années. Suspendu entre finitude, abandon, rejet, acceptation et accompagnement. Jusqu'au bout, il viendra dire son appartenance au monde des vivants par cette interrogation si pertinente. Est-ce que je suis déjà mort? À moi, me dit un autre, j'ai peur. J'ai peur de la nuit pour toujours. Donnez-moi la main. Elle est chaude. Oui, de la chaleur dans ma main pour partir dans le froid de la nuit. Ce long mourir renvoie au chronos, au temps qui dure. C'est long par rapport à quoi? À l'entrée en institution? Au début de la maladie? À l'âge? Une patiente de 102 ans me dit dans un soupir: mais c'est trop long de mourir, surtout si Dieu vous oublie. Ce long mourir de ces patients nous interpelle dans ce deuil blanc que certaines familles font dans l'absence et l'évitement. Parce que ça n'a plus de sens. Vous comprenez? Il ne me reconnaît même pas. Alors moi, je n'ai pas de temps à perdre. Car il nous renvoie à notre propre mort, qui n'est plus apprivoisée dans nos cultures portant haut les valeurs de jeunesse et d'autonomie. Pour qu'une parole puisse se dire, pour qu'un regard puisse se saisir, pour qu'une main puisse se caresser, il faut du temps. Et c'est bien que le temps institutionnel soit long. Il faut de l'humain dans le soin, du care et non du cure, du confort et de l'amour au sens d'agapé. C'est-à-dire celui qui donne sans attendre de retour. Il faut aussi donner ce temps aux familles qui le souhaitent. Laisser la place à l'inventivité, que la pesanteur institutionnelle s'humanise, pour laisser se vivre quelques moments de grâce. Camille, 85 ans, souffre de maladie d'Alzheimer depuis 15 ans. Elle est en phase terminale de sa maladie. Le silence et l'apathie, le regard vide et le visage émacié ont pris la place de la tyrannie des troubles du comportement, de ses cris, de ses crachats, de ses griffures. Elle est alitée depuis des semaines dans un temps long, dilatée vers une...
qui a fait un témoignage assez intéressant. Elle est biographe hospitalière et elle propose justement à des patients qui peuvent être en fin de vie de décrire leur vie. Et à un moment donné, elle a mis un point final au patient qui avait terminé son histoire. Et le patient a dit, mais c'est horrible. Il y a un point final, donc ça y est, je suis mort. Et elle s'est rendue compte à quel point il y avait un problème avec ce point final, et donc elle expliquait que finalement, elle ne met plus le point final. Et donc je trouvais ça intéressant comment elle gérait cet enjeu de l'obscénité de l'esthétisme relatif. Donc ça, c'était le premier focus sur le temps. Deuxième focus, être maître du temps. Je pense que lorsqu'on écrit, on reprend le pouvoir, on reprend le pouvoir sur sa vie, et encore plus lorsqu'on est en fin de vie. Ce qui est certain, c'est que lorsqu'on doit écrire et qu'on est en fin de vie, ça pose deux problèmes. Un problème qu'on peut être assez dépressif, enfin on peut se poser la question, est-ce qu'on a vraiment envie d'écrire à la fin, et donc ça pose la question de comment trouver un moteur d'enthousiasme. Et puis deux, il y a des questions très techniques, c'est-à-dire avec des personnes qui, de temps en temps, ne sont plus capables physiquement d'écrire. Alors qu'est-ce qu'on fait par rapport à ces enjeux techniques? Et généralement, bah, ça permet, enfin, ça ouvre tout un champ par rapport à l'innovation, par rapport à comment s'adapter. Et c'est un peu comme ce que disait tout à l'heure Véronique par rapport à Camille qui ne parlait plus et qui tout d'un coup va, avec une chanson, réévoquer plein de choses. Donc je trouve ça intéressant, cette question de la contrainte technique. Et très très rapidement, par rapport à la maîtrise du temps, moi j'ai perdu mon mari, et une des questions très importantes que je me posais, c'était de savoir est-ce qu'il voulait être incinéré ou pas. Et c'est une question qu'on ne s'était jamais posée, et en même temps, je trouvais ça affreux de ne pas avoir la réponse. Donc, un peu le récit de fin de vie, j'avais envie qu'il me dise incinéré ou pas. Et j'attendais le moment pour lui poser la question, mais j'attendais qu'il ouvre un peu la question, et à un moment donné, il me dit, comment tu vois la suite? Comment tu verras le après? Et je rebondis, est-ce que tu veux te faire incinérer ou pas? Et là, il me dit, ah non, mais là, t'es allé beaucoup trop vite pour moi, ça me fait flipper. Et j'ai discuté avec une psy de Cochin qui m'a dit, mais c'est extrêmement important de laisser à Benoît, c'est lui qui a le tempo, c'est lui qui doit décider. Et donc, s'il vous pose une question, vous répondez à sa question, il ne faut pas l'éluder, mais vous n'allez jamais plus loin. Et c'était un conseil qui était extrêmement précieux pour la suite, et pour moi, et pour les amis. Et donc, je trouve que d'avoir en tête qu'il faut répondre aux questions, mais ne jamais aller plus vite, et que c'est à la personne de rester maître du temps, je trouvais ça extrêmement important. Après l'esthétisme et la question du maître du temps, le troisième point, c'est la distribution du temps. C'est-à-dire que souvent, on a des, ce que je disais tout à l'heure, des temporalités différentes entre le fait d'être efficace, d'être dans le recueillement, d'être dans les projections. Il y a beaucoup d'injonctions paradoxales du temps dans la fin de vie. Il y a tout un enjeu sur la lenteur. À mon avis, la lenteur est extrêmement importante. Et sans doute qu'il faut faire, en écrivant, on fait le deuil du livre parfait, il faut faire le deuil du temps parfait. C'est-à-dire que ça ne se passe jamais comme on aurait voulu. Et il faut faire avec. Les référentiels aussi peuvent être très très différents. Et par exemple, un des enjeux que je trouvais intéressant, c'était en soins palliatifs, la question de la sexualité. Quelqu'un nous expliquait qu'en général, les familles ou les personnes qui sont en soins palliatifs n'osent pas aborder la question de la sexualité. Et ils pensent que c'est les soignants qui vont en parler en premier. Les soignants n'osent pas en parler aussi par pudeur. Alors, je ne sais pas si ça se passe toujours comme ça, mais je trouve ça intéressant. Et c'est comme si, en fin de vie, c'est comme si on n'a plus le temps de... Il y a une forme d'urgence qui fait qu'on n'est plus comme dans la vie classique, notamment par rapport à cet enjeu de la sexualité. Quatrièmement, la question du ton du récit. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que ça pose la question de qui écrit, à quel moment on écrit, pour qui on écrit et quel est l'objet de ce qu'on écrit. Plusieurs personnes, en tout cas moi ça m'est déjà arrivé, ça c'était pour ma mère, de faire quelque chose d'un peu sacrilège, c'est-à-dire quelques jours avant sa mort, de commencer à écrire le texte que j'allais dire à l'enterrement. Et je pense qu'il y a un truc assez étrange sur ce qu'on écrit au moment de la fin de vie, et on se projette aussi sur l'après. Et on a le sentiment aussi que c'est étrange. Et alors par rapport à cette écriture, moi, je trouvais intéressant la question des journaux qu'on peut trouver dans des centres de soins palliatifs pour les familles, et où généralement les familles font surtout des remerciements et donc écrivent lorsque leurs proches sont morts. Et je m'étais posé moi la question en tant qu'aidant, en lisant ces journaux à un moment où ma mère est encore vivante, de me dire quel est l'usage de ces journaux qui se trouvent dans un centre de soins palliatifs. Est-ce que c'est pour les soignants, pour les remercier? Est-ce que c'est pour les familles pendant cette période de soins palliatifs? Et puis, on a, dans le cadre de récithérapie, fait un questionnaire qui est en cours. On a eu à peu près 70 réponses pour des soignants. Et je vais vous donner quelques réponses qu'on a eues. On se posait la question, est-ce que les soignants ont un besoin d'écrire ou de parler sur notamment la fin de vie? À la question, vous arrive-t-il... Enfin, et donc, c'est est-ce qu'ils ont besoin d'en parler plutôt après le décès de la personne, mais pour évoquer en fait le récit de la fin de vie, mais après tout. Alors, vous arrive-t-il d'évoquer la mémoire de personnes que vous avez accompagnées dans leur fin de vie à l'hôpital? Donc la réponse est oui à 95%, et c'est essentiellement entre collègues, et plus rarement avec des amis ou en famille. Qu'est-ce que ça vous apporte? De la réflexivité, de l'émotion et de la tristesse, du sens, une réflexion sur sa propre mort. À quel moment vous évoquez la mémoire des personnes qui sont mortes? C'est à 63% quand un patient vivant nous rappelle quelqu'un qui est décédé. Quel est le meilleur moment pour en parler? À 76% lorsque c'est un moment informel qui n'a pas été prévu. Est-ce que ça vous est utile? À 86% oui. Diriez-vous qu'une place est faite à l'échange autour des patients disparus dans votre service? Oui, à 56%. Et je vous donne deux phrases qui ont été dites, des phrases anonymes. Une phrase qui dit qu'il y a la place et l'autre qui n'y a pas la place. Il y a la place, la personne dit, c'est essentiel pour clôturer une prise en soin et pour faire un bilan, mais aussi pour replacer les émotions légitimes dans le soin. Et quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas la place dit, on peut parler ensemble des décès récents, mais on n'exhume pas nos patients. Nos patients sont des vivants, les morts appartiennent aux familles et pas aux équipes de soins. Et c'est toute la question sur laquelle a travaillé notamment Myriam, sur la question de est-ce que les soignants peuvent être en deuil quand un patient décède ou pas, que doit-on dire à ce moment-là. Et alors, à la question, vous imagineriez-vous participer à un dispositif autour de la mémoire de patients? Oui, à 82%. Sous quelle forme? 65% disent avec un groupe de parole, donc pas d'écriture. 45% avec de l'écriture collective et 37% avec de l'écriture seule. Et puis le dernier point que je trouve intéressant, c'est la question du fantasme du temps. Et je pensais notamment à deux choses par rapport au fantasme. Il y a une personne qui s'appelle Marine de Royer, qui a travaillé dans le récithérapie, dont le père est mort. Enfin, elle vient d'atteindre l'âge qu'avait son père quand il est mort. Et elle explique à quel point, lorsqu'on est sur le point de dépasser l'âge de son père, On a le sentiment qu'on va mourir. C'est comme si c'était une fin de vie un peu fantasmée, fictionnelle. Et donc, elle a interrogé plein de gens sur ça. Et je trouvais ça intéressant. Et même, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, plusieurs personnes m'ont dit que souvent, les patients meurent seuls, même quand ils sont très accompagnés par leur famille. Et j'ai jamais su si c'était vraiment... Mais j'ai toujours trouvé ça assez magique. Et pour synthétiser, je me suis dit, par rapport à la question du temps et la complexité du temps, 7 points à retenir. Enfin, selon moi, la concentration temporelle, hyper importante, le pouvoir, il y a un enjeu de pouvoir, le romantisme potentiellement obscène du temps, quatrièmement, le télescopage des temporalités des uns et des autres, cinquièmement, le besoin de récits, pour ça je ne l'ai pas évoqué, mais beaucoup de gens disaient que c'était très important de faire un récit, mais qu'on n'est jamais sûr si on n'a pas de garantie thérapeutique que ça ne va pas faire du mal. Donc c'est sixièmement le méta-récit qui me semble important, et septièmement le temps qui est comme un personnage avec lequel on joue de gré ou de force. Je vous remercie.
Merci beaucoup.